Écrit l'ici avec le Ciala. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel d'auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors retrouvez-nous le deuxième mercredi du mois à 17h30 sur Jet FM 91.2 et le quatrième mercredi du mois, toujours à 17h30, toujours sur Jet FM 91.2.
Ou en podcast sur jetfm.fr.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour, bonjour Bruno Bordage. Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs, reçoit aujourd'hui donc Bruno Bordage pour son deuxième roman, Hypatie, la colère des moines, paru en février 2025 aux éditions Lazare et Capucine. Ton premier roman, Bruno, s'intitulait Un koukal dans la nuit, avait été paru en auto-édition, il est paru en 2022. Voilà, pour information pour lecteurs, les auditeurs et les auditrices. Donc merci Bruno d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, bien sûr, notre traditionnelle question. Pourquoi l'écriture ? Alors on peut entendre pourquoi en un seul mot et pourquoi en deux mots l'écriture ? En fait, la place que ça occupe pour toi, comment tu y es venu et voilà un peu ce que ça produit, ce que ça procure.
C'est récent chez moi. C'est depuis que je suis en retraite que je me suis mis vraiment à écrire, en tout cas à écrire des romans. Avant, je ne faisais qu'une écriture professionnelle. Alors pourquoi écrire ? C'est d'abord un plaisir, un vrai plaisir d'aller chercher les mots, les phrases, la langue. Et puis c'est aussi, je cherche à faire plaisir au lecteur. Et puis, je souhaite que ce soit un plaisir partagé entre les lecteurs et moi. Voilà les raisons profondes de cette envie d'écrire.
Merci.
Alors, justement, Bruno Bordage nous transporte en 415 à Alexandrie, en Égypte. La foi chrétienne se propage au détriment des cultes hérités des Grecs, vénérés par l'élite. D'un côté, un dieu créateur du monde, de l'autre, le monde comme œuvre de la nature. Philippos et Arsinoé, riches commerçants, ainsi que Étienne et Isidora, ouvriers convertis christianisme, nous font vivre les soubresauts de cette société en plein bouleversement. Hypatie, la philosophe, questionne et débat, tandis que l'évêque Cyril, ivre de pouvoir, souffle sur les braises allumées par des moines fanatiques.
Deuxième question, Bruno. Quand on lit le livre, on se dit, mais comment vient l'idée d'un tel sujet de roman ?
Je vais répondre en deux temps. D'abord une anecdote, puis ensuite une réponse un peu plus profonde. L'anecdote, c'est qu'il y a déjà, je pense, assez longtemps, peut-être 15 ou 20 ans, j'ai lu, dernière page de West France, un article long, toute la page, sur Hypatie. Et j'ai été ému par son histoire. Puis c'est resté ancré dans mon cerveau. Il m'a semblé avoir oublié. Et lorsque j'ai eu envie d'écrire un deuxième roman, m'est revenue cette lecture que j'avais eue 20 ans auparavant. Ça, c'est un peu l'anecdote. Alors, après, tout cela est inconscient, j'imagine, si on recherche plus profondément. Mais je pense, aujourd'hui, après avoir écrit le livre, que la raison profonde pour laquelle je suis allé chercher si loin dans le temps et dans l'espace, puisqu'Alexandrie, c'est en Orient, c'est que je remonte aux sources de ce que je suis. Parce qu'il me semble que j'avance sur deux pieds, parce que sur un seul pied, on ne peut pas aller loin. Hein. Un pied qui est celui de la culture antique, et un pied qui est celui de l'environnement chrétien, de la culture chrétienne. C'est les deux pieds qui me font avancer. Aujourd'hui, Et là, dans cette histoire, on monte aux sources. Ces deux visions de la vie, hein. La culture antique et la culture chrétienne, se sont confrontées comme jamais à ce moment-là à Alexandrie. Et voilà, je pense que c'est un retour aux origines de ce qui est ma culture. Je l'analyse aujourd'hui. Je pense que c'était inconscient lorsque j'ai commencé à lire, mais je l'analyse après avoir écrit le livre.
Merci beaucoup. Alors, justement, tu dis « je remonte aux sources ». Alors, quand on lit ce livre, on est frappé par sa dimension contemporaine, en fait. C'est-à-dire que lorsque l'on lit, au détour de chaque page, hein, en lien avec le résumé que Martine faisait tout à l'heure, on se dit « mais ça m'évoque ça aussi, mais cette brutalité, cette côté un peu orgiaque, hein, des élites, entre autres, mais pas que. Mais est-ce que c'est pas ce qui est en train de se produire aujourd'hui ?
Aujourd'hui ou à d'autres moments dans l'histoire, d'ailleurs.
Ou à d'autres moments dans l'histoire, mais comme on est effectivement des lecteurs de notre temps, c'est vrai que on ne peut pas s'empêcher de faire des liens, de faire des ponts. Est-ce qu'il y avait aussi ça dans ton intentionnalité ou pas du tout ? Ou c'est le fait que effectivement, quand on remonte le cours de l'histoire, eh ben on retrouve des systèmes, des stratégies, des enjeux humains qui sont présents, qui se transforment finalement, mais qui sont toujours les mêmes, qui sont toujours un peu le nerf de la guerre, si je puis m'exprimer ainsi.
Je suis convaincu que de remonter loin dans le temps nous permet de voir, de découvrir en tout cas différemment notre monde d'aujourd'hui, et ça apporte quelque chose, ça apporte un éclairage, peut-être en biais, peut-être pas direct, ça permet pas, probablement pas de régler, de trouver des solutions aux problèmes concrets qui se posent aujourd'hui. Mais ça relativise et ça éclaire. Oui, je suis assez convaincu de cela. Alors, la question que vous posez aussi, ça me fait penser au sujet de l'anachronisme. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, je n'avais pas vraiment idée d'écrire sur le monde d'aujourd'hui. Mais en écrivant, je me dis « Ah tiens, ça, bah oui, c'est un problème d'aujourd'hui ». Et alors, est-ce que je suis en train de faire des anachronismes ou pas ? Alors, il faut, en principe, quand on écrit un roman historique, il ne faut pas en faire. Pas trop. Il faut se plonger dans l'époque, vraiment. Je pense qu'on peut en faire quelques-uns, à condition qu'ils soient volontaires. Regardez Astérix, ce ne sont que des anachronismes. Astérix ne parle que d'aujourd'hui, hein ? Et c'est volontaire, et c'est super, c'est de l'humour. Alors oui, il y a des anachronismes volontaires dans le livre que j'ai écrit. Il y en a un certain nombre. En écrivant, on dit « Tiens, c'est comme ça aujourd'hui, j'y ai pensé » et il y a des clins d'œil.
Et la question du négoce, du commerce, justement, du problème des prix, de... En fait, enfin, ça devait...
C'est de tout temps.
C'est de tout temps, ça, hein, de toute façon.
Hein, oui.
C'est pas que d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est de tout temps.
Alors, autre chose, merci pour la réponse, bien sûr. Et puis, alors autre chose, hein, c'est dans ce roman, Hypatie, donc la philosophe, hein, ce qui est intéressant, c'est dans les personnages, en fait, on a deux femmes fortes. À la fois Hypatie, hein, qui défend la raison, on va dire, contre la croyance, hein, le monde, œuvre de la nature. Hein. Et puis, de l'autre côté, elle s'affronte à une autre femme, Isidora, hein, donc qui est la femme d'Étienne, hein, dont on parlait tout à l'heure, qui, elle, est la fervente détentrice, voire aveuglée, hein, par la foi, complètement surexcitée par Cyril, hein, qui, comme disait Martine, souffle sur les braises de des moines qui sont devenus un peu fous. C'est aussi particulier, hein, d'avoir pris cet angle-là, de mettre au centre des femmes fortes, sans compter Arsinoé, hein, qui est aussi un personnage central. Donc on a des figures d'hommes qui sont présentes, mais on a aussi ces figures de femmes qui sont très au-devant du roman. Donc une intention, une volonté, enfin bref, comment ça s'est construit ?
Plusieurs personnages sont historiques, vous les avez cités, notamment Hypatie, l'évêque Cyril et Oreste, une femme, deux hommes. Hypatie étant au centre. Quatre personnages principaux sont des personnages de fiction, totalement inventés par moi. Deux hommes, deux femmes. Alors, votre question porte sur les femmes. Je vais reformuler la question. Est-ce que mon roman est féministe? C'est peut-être ça qu'il y a derrière.
Hein, c'est aussi que les femmes... alors, c'est des clichés qu'on a et des a priori, que des femmes de cette époque aient pu avoir cette importance. Quoi, parce qu'en fait, on n'en parle pas.
Alors, tout à fait. Bon, est-ce que le roman est féministe? Lorsque j'ai eu l'intention d'écrire ce livre, et pendant tout le processus de l'écriture, je n'avais pas d'intention féministe. Il se trouve qu'Hépatie, le personnage majeur du livre, est une femme. Et c'est une personne exceptionnelle. Un personnage absolument hors du commun. Ceci dit, peut-être ça aurait pu être un homme. Je pense que si ça avait été un homme, j'aurais écrit le même livre.
D'accord.
Il se trouve que c'était une femme. Alors, c'est vrai que de l'Antiquité, nous ne gardons pas beaucoup de noms de femmes comme personnages exceptionnels. En politique, oui, Cléopâtre, quelques-unes. Mais dans le monde de la science ou de la philosophie, on n'a que des noms d'hommes.
Tout à fait.
Sauf Hypatie, qui nous arrive tout à fait à la fin de cette période, au moment où elle tombe, cette période antique. On a cette grande intellectuelle. Oui, c'était une femme exceptionnelle.
D'accord.
Alors, on va en profiter de cette petite pause là, puisque ça va être le moment de la pause musicale.
Très bien.
Et que donc Bruno Bordage a choisi aussi une femme exceptionnelle, hein, en la personne de Nathalie Dessay, qui chante donc Estrano sempre libera, dans la Traviata. Je vais y arriver.
Thank you.
suis vraiment désolée d'être obligée de couper. Mais bon, c'est un petit peu trop long. Vous êtes bien sûr Jet FM 91.2. Nous sommes en compagnie de Bruno Bordage pour son roman Hypatie et... Ça y est, j'ai oublié. Et la colère des moines.
Merci. Alors, pour reprendre le cours de notre conversation, toujours quand même dans cette... Je réfléchissais en écoutant la musique. Hein, mais vraiment très, en tout cas, moi, j'étais très marquée par la dimension contemporaine et se superposer vraiment dans ma tête tout le temps. Et vraiment, j'ai été intéressée, interrogée. Je trouvais ça passionnant, cette lutte entre la raison et la foi. Et je me dis, mais est-ce que ça ne se rejoue pas aujourd'hui sur la scène nationale, internationale, même si la foi n'est pas forcément la même que celle dans le Dieu dont il est question dans le roman, hein, mais la foi dans la technologie, la foi dans ce qu'on appelle le scientisme. Enfin, et comment la raison, comme dans le roman, comment la raison a énormément de mal à pouvoir trouver ses appuis pour se faire entendre. Voilà, donc j'avais un peu envie d'entendre l'écrivain, l'auteur sur ces questions-là, parce que ce livre a demandé énormément de recherches. Et voilà, je me dis, est-ce que, en lien avec ce qu'on dit tout à l'heure, ça éclaire effectivement, toujours l'histoire éclaire aujourd'hui, hein, c'est toujours le côté passionnant. Mais là, est-ce que vraiment il y a des choses, oui, qu'on peut regarder avec ces yeux-là et peut-être tirer des leçons, essayer de comprendre des choses.
De tout temps, hein. De tout temps, la foi et la raison se sont heurtées. Et toujours, bien évidemment. Hein. L'intérêt de remonter à Alexandrie au 5e siècle, c'est qu'à ce moment-là, le conflit entre la foi et la raison a été total. Il a tout emporté et il symbolise la chute de toute une culture, la chute d'une civilisation. Ce n'est pas rien tout de même. Alors, non pas que ce n'est pas à Alexandrie en 415 que la civilisation antique est tombée uniquement, mais enfin, ce moment-là symbolise la fin d'une période de 1000 ans. Et ce n'était pas rien. La culture antique, c'est la culture grecque, c'est la culture latine. Et même au-delà, on peut remonter aux Mésopotamiens, aux Égyptiens. C'est toute une vision, une manière de voir le monde qui est tombée. Et bien, au cœur de cette chute et de ce remplacement par une autre culture qui mettra 1000 ans à s'épanouir, la culture chrétienne. Tout ça, on est dans des très très longues périodes. Hein. Eh bien, au cœur, oui, il y a ce conflit terrible entre la foi et la raison. Mais l'intérêt de cette période, c'est que ça a été très fort, emblématique, puissant. Ce conflit-là, il emportait tout. Et je pense, je n'étais pas vivant à l'époque, mais il me semble, tout y compris, tout le monde, y compris les petits gens, étaient emportés dans ce chaos.
Parce qu'on voit quand même qu'il y a un conflit aussi entre l'élite qui veut conserver, enfin en tout cas ceux dans le roman, qui veut conserver, continue à vénérer les divinités grecques, qui se désole du changement de langue aussi dans l'éducation des enfants, ça c'est important la langue quand même, hein. Et les petites gens qui finalement voient là une façon, parce que ça prône l'égalité même si c'est bon. Voilà une façon aussi de montrer à l'élite qu'ils existent aussi peut-être, je sais pas.
Oui, alors il y avait des chrétiens parmi les élites et des chrétiens parmi les petites gens, mais le christianisme a d'abord été une religion des petites gens dans les premiers siècles, une religion des pauvres, une religion des gueux même, on peut dire, je crois. Et j'ai voulu montrer cela. J'aurais pu prendre parmi les personnages que j'ai créés, j'aurais pu prendre des gens riches comme chrétiens. Il y en avait évidemment, hein, mais j'ai voulu prendre des ouvriers, une couturière et un boulanger. Ça m'a semblé juste pour montrer comment l'ambiance des premiers siècles. Et puis il m'a semblé aussi pertinent de montrer que ceux qui étaient attachés à la tradition, eh ben c'était notamment, pas uniquement, mais notamment ceux qui détenaient le pouvoir, que ce soit le pouvoir économique, le pouvoir politique, tous les pouvoirs symboliques, eux voulaient conserver leur monde.
Moi, j'avais une question. On en parlait tout à l'heure avant l'émission, là. C'est qu'il y a un chapitre qui... Enfin, un chapitre, je sais pas, j'ai noté un numéro de page. Un réel hommage à l'écrit.
Oui, j'espère que vous avez trouvé qu'il n'y a pas qu'un seul chapitre qui est un réel hommage à l'écrit.
Non, mais là, page 219, j'ai pas relevé les phrases exactes, mais il y a vraiment tout un passage là-dessus.
Quoi. Oui, il y en a plusieurs, hein, et plus que plusieurs, puisque quand vous ouvrez le livre, je pense que le premier paragraphe, ça parle déjà d'un livre, et que le dernier paragraphe reparle du même livre. C'est pas rien quand la première phrase et la dernière phrase sont autour de ce livre-là. Et je pense que le roman que j'ai écrit est une ode à l'écrit. Alors vous citez une page particulière. Il y en a plusieurs. Je l'ai voulu. Bien évidemment une ode à l'écrit parce que l'écrit, eh bien, c'est l'un des piliers de toute culture, c'est l'un des piliers de toute civilisation. Et à l'époque, ça se jouait. Eh bien, oui. La civilisation antique était notamment fondée sur l'écrit.
Et d'ailleurs, les moines vont brûler dans Mosaïon, quand ils vont brûler le reste de cette bibliothèque du Temple du Savoir, ils trouvent des livres dans la chambre de Titus et ils vont brûler ces livres alors que déjà, ils ont été tous brûlés, qu'il y a vraiment cette volonté de destruction forte.
Et la dernière phrase du livre, ou les deux ou trois dernières phrases, il s'agit aussi, alors qu'on a tué des gens, il s'agit après d'avoir tué des gens, de tuer les livres.
C'est, tout à fait.
Tant que les livres ne sont pas brûlés, peut-être les gens ne seront pas complètement morts.
Oui, tout à fait.
Et il y a un petit passage aussi à propos de la forme de l'écrit, entre le papyrus et le parchemin. Un tout petit passage, je me dis, tiens, déjà, il y avait des... Voilà, Hypatie d'ailleurs, hein, qui, bon, c'est à chaque fois qu'il y a une transition entre un support, je veux dire, hein, un support et un autre, il y a ça... Voilà, il y a une petite...
Oui, tout ça nous renvoie aujourd'hui aussi, quand on passe de l'écrit aux réseaux sociaux, on passe de l'écrit à l'écran. Bon, à l'époque, on passait du papyrus... au codex.
Oui, c'est ça, le codex.
Codex, qui était déjà une forme, c'était un petit livre déjà, avec des pages qu'on tournait, ça n'a rien à voir avec le papyrus. Oui, de même que la langue a évolué, je parle de ça aussi, à certains moments.
Il y a plein, c'est riche.
On est passé de la langue grecque à la langue copte. Et les gens, l'école, il y avait des écoles déjà. Eh bien, à l'école, on n'enseignait plus la même langue au peuple.
Donc, plus les mêmes codes non plus.
Bah, bien sûr.
Juste, peut-être pour finir, on a pris un angle d'attaque en tant que lectrice. Mais peut-être, Bruno, tu as quelque chose de particulier que tu voulais dire sur ce livre à côté duquel nous sommes passés. Est-ce que tu avais quelque chose de particulier?
Alors, peut-être revenir à l'écriture et dire que j'ai aimé profondément, en écrivant, j'ai aimé mes quatre personnages de fiction, qui pourtant, tous les quatre, ont une vision totalement différente du monde, de chrétiens, de païens, disons, pour employer le mot qu'utilisaient les chrétiens à l'époque. Et parmi les deux chrétiens, une Isidora fanatique, l'autre Étienne tolérant. Curieux de la raison grecque et d'ailleurs allant chez Hypatie. Et puis chez les deux païens, lui, Philippos, très réactionnaire, conservateur, prêt à faire la guerre pour défendre son pouvoir et toutes ses croyances. Et puis sa femme Arsinoé, elle, tolérante, allant chez Hypatie. Et pour elle, les chrétiens, eh bien, ma foi, Jésus-Christ, c'est une divinité de plus. On va l'assimiler, le Jésus-Christ. Et elle n'est pas contre les chrétiens. Donc, quatre visions du monde complètement différentes. Et ce que je voudrais dire, c'est que j'ai aimé chacun des quatre. Je n'ai pas pris parti. Le livre que j'ai écrit n'est pas un livre à thèse. Je ne défends pas une thèse. Le lecteur, probablement, lui, aimera tel personnage plutôt que tel autre et voudra défendre une thèse plutôt que tel autre, parce que ça répondra à son équation personnelle. En ce qui me concerne, je ne défends aucune thèse. J'ai essayé de me mettre dans la peau de chacun de ces quatre personnages et j'ai aimé chacun tout autant que l'autre.
Merci beaucoup.
Voilà, t'as quelque chose en projet là, parce qu'on se demandait comment passer à autre chose.
Alors, d'abord, le projet de très court terme n'est pas d'écrire, mais je serai présent au Festival du Livre de Paris le samedi 12 avril pour une séance dédicace. De 16h à 17h, le samedi 12, tous les auditeurs qui nous écoutent, s'ils sont à Paris, hein, ou si, à ce moment-là, sont conviés à y venir. Et j'aurai un grand plaisir de rencontrer des lecteurs.
Super. Très bien. Alors, donc, pour finir, Bruno Bordage a choisi Sofiane Pamart. Love, je ne suis pas sûre que le titre soit complet, c'est Love. Très bien.